Impressions de voyage en Suisse, tome 2. Des vieux cantons aux îles Borromée. 1833-1834 par Alexandre Dumas. Chapitre 40. Les poules de Monsieur Chateaubriand. En sortant de l'hôtel de l'Aigle et en prenant le chemin qui s'étend à la gauche du lac de Zug, nous nous retrouvions sur un terrain qui appartient exclusivement à l'histoire. La route que nous suivions fut suivie par Gessler et va aboutir à sa tombe. Nous ne nous arrêtâmes à Immensee, où nous arrivâmes à 7 heures du matin, que le temps de faire une halte, et nous prîmes aussitôt la route de Küssnacht, dont le nom amoureusement poétique, « Baiser du soir », est si peu en harmonie avec le souvenir de mort qu'il rappelle. À 15 minutes d'Immensee à peu près, nous nous engageâmes dans le chemin creux, au bout duquel veillait Guillaume Tell. Il est large à peine pour passer une voiture, et encaissé des deux côtés par un talus de 12 pieds de hauteur, au sommet duquel s'élèvent des arbres, dont les branches, se joignant et s'entrelaçant, forment un berceau au-dessus de la tête du voyageur. À son extrémité s'élève une chapelle. C'est celle qui fut élevée à l'endroit même où expira Gessler. En face de la chapelle, un chemin latéral quitte la route, monte 20 pas à peu près et s'arrête au pied d'un arbre. S'il faut en croire la tradition, c'est là, derrière et contre cet arbre même, dont on aperçoit à gauche, en venant d'Immensee, le tronc couvert de mousse, que Tell, caché, appuya son arbalète pour être plus sûr de son coup. En admettant cette distance entre le tireur et le but, Guillaume aurait tiré à 27 pas. Cette chapelle n'a rien qui la distingue des autres. Les effigies de Saint-Nicolas de Flux et de Saint-Charles-Borromée la décorent. Et dans celle-ci, comme dans les autres, on me présenta un livre où les pèlerins inscrivent leurs noms. À l'avant-dernière page, je trouvai celui de M. de Chateaubriand. Depuis Martigny, j'avais vu de temps en temps reparaître sur les livres des auberges ce grand et beau nom, confondu parmi les noms obscurs des touristes. À Andermatt, un voyageur avait dessiné au-dessous de ce nom une lyre couronnée de lauriers. L'aubergiste me l'avait montré comme un nom de prince, et je l'avais détrompé en lui disant que c'était un nom de roi. Je griffonnais ma signature bien loin et bien au-dessous de la sienne, comme devait le faire un courtisan respectueux, et je me remis en route. En sortant du petit bois dans lequel est située la chapelle de Tell, nous aperçûmes à notre gauche les ruines de la forteresse à laquelle se rendait Gessler lorsqu'il fut tué. Un petit chemin y conduit. Nous le prîmes, et en moins de 10 minutes, nous arrivâmes à ce château, détruit par Stauffacher au mois de janvier de l'année 1308. Et qui n'offre rien de remarquable que le souvenir qu'il rappelle. Le sentier qui y mène entre d'un côté, le traverse entièrement, et sortant de l'autre, conduit droit à Küssnacht. Nous nous y embarquâmes pour Lucerne. Le lac des 4 cantons passe généralement pour le plus beau lac de la Suisse. En effet, le caprice de sa forme donne à ses perspectives différentes beaucoup d'inattendus. Cependant, jusqu'alors, je lui avais préféré le lac de Brienz, avec sa ceinture de glaciers. Mais, en arrivant en face de Lucerne, je fus forcé d'avouer que nulle part encore une vue aussi complète dans son ensemble et dans ses détails ne s'était offerte à mes yeux. En effet, en face de moi, au fond de son petit golfe, s'élevait Lucerne, entourée de fortifications qui remontent au XVIe siècle, et qui donnent un aspect étrange à cette ville, dans un pays où les véritables remparts sont bâtis de la main de Dieu, et s'élèvent à 14 000 pieds de hauteur. À sa droite et à sa gauche, comme 2 sentinelles, comme 2 géants, comme le génie du bien et du mal, s'élève le Rigi, cette reine des montagnes, Regina Montium, revêtu de son manteau de verdure brodé de villages et de chalets, et le Pilate, mons Pileatus, squelette osseux et décharné, couronné de nuages où dorment les tempêtes. Jamais contraste plus complet que celui qu'offrent ces deux montagnes n'a été embrassé d'un coup d'œil. L'une, couverte de végétation de sa base à son sommet, abrite 150 chalets et nourrit 3000 vaches. L'autre, comme un mendiant, vêtu à peine de quelques lambeaux de verdure sombre qui laissent apercevoir ses flancs nus et déchirés, n'est habité que par les orages et les aigles, les nuages et les vautours. La première n'a que des traditions riantes, la seconde ne rappelle que des légendes infernales. Aussi le chemin qui côtoie sa base est-il celui que Walter Scott a choisi pour en faire le théâtre de la scène terrible qui ouvre son roman de Charles le Téméraire. Le vent qui soufflait de Brunnen et qui enflait notre petite voile nous faisait glisser si doucement au milieu de ce ravissant paysage que, couché comme je l'étais sur la proue, je ne me sentais pas marcher et que j'étais prêt à croire que c'était la ville qui venait au-devant de moi. Cette illusion dura jusqu'au dernier moment. Les maisons grandissantes semblaient sortir de l'eau. Nous doublâmes une tour qui, servant autrefois de phare, Lucerna, a donné son nom à la ville, et nous abordâmes sur le quai. Une auberge que nous trouvâmes sur notre route était celle du Cheval Blanc. Nous nous y arrêtâmes. La première nouvelle que j'appris, et en effet c'était la plus importante, était que M. de Chateaubriand habitait Lucerne. On se rappelle qu'après la Révolution de Juillet, notre grand poète, qui avait voué sa plume à la défense de la dynastie déchue, s'exila volontairement et ne revint à Paris que lorsqu'il y fut rappelé par l'arrestation de la duchesse de Berry. Il demeurait à l'hôtel de l'Aigle. Je m'habillai aussitôt dans l'intention d'aller lui faire une visite. Je ne le connaissais pas personnellement. À Paris, je n'eusse point osé me présenter à lui. Mais hors de la France, à Lucerne, isolé comme il l'était, je pensais qu'il y aurait peut-être quelque plaisir pour lui à voir un compatriote. J'allai donc hardiment me présenter à l'hôtel de l'Aigle. Je demandai M. de Chateaubriand au garçon de l'hôtel. Il me répondit qu'il venait de sortir pour donner à manger à ses poules. Je le fis répéter, croyant avoir mal entendu, mais il me fit une seconde fois la même réponse. Je laissai mon nom, en réclamant en même temps la faveur d'être reçu le lendemain, car il commençait à se faire tard. Et les courses continues que j'avais faites depuis Brigue, le peu de repos que j'avais pris pendant les 3 ou 4 dernières étapes, me faisaient sentir que je n'aurais pas trop du reste du jour et de la nuit pour me remettre tout à fait. Quant à Francesco, toute ville était pour lui capoue. Le lendemain, je reçus une lettre de M. de Chateaubriand, envoyée dès la veille, mais qu'on ne m'avait pas remise de peur de m'éveiller. C'était une invitation à déjeuner pour 10 heures. Il en était 9, il n'y avait pas de temps à perdre. Je sautai à bas de mon lit et je m'habillai. Il y avait bien longtemps que je désirais voir M. de Chateaubriand. Mon admiration pour lui était une religion d'enfance. C'était l'homme dont le génie s'était le premier écarté du chemin battu pour frayer à notre jeune littérature la route qu'elle a suivie depuis. Il avait suscité à lui seul plus de haine que tout le cénacle ensemble. C'était le roc que les vagues de l'envie, encore émues contre nous, avaient vainement battu pendant 50 ans. C'était la lime sur laquelle s'étaient usées les dents dont les racines avaient essayé de nous mordre. Aussi, lorsque je mis le pied sur la première marche de l'escalier, le cœur faillit me manquer. Tout à fait inconnu, il me semblait que j'eusse été moins écrasé de cette immense supériorité, car alors le point de comparaison eût manqué pour mesurer nos deux hauteurs, et je n'avais pas la ressource de dire comme le Stromboli au Monte Rosa, « Je ne suis qu'une colline, mais je renferme un volcan. » Arrivé sur le palier, je m'arrêtai. Le cœur me battait avec violence. J'eusse moins hésité, je crois, à frapper à la porte d'un conclave. Peut-être en ce moment, M. de Chateaubriand croyait-il que je le faisais attendre par impolitesse, tandis que je n'osais entrer par vénération. Enfin, j'entendis le garçon qui montait. Je ne pouvais rester plus longtemps à cette porte, je frappai. ce fut M. de Chateaubriand lui-même qui me vint ouvrir. Certes, il dut se former une singulière opinion de mes manières, s'il n'attribua pas mon embarras à sa véritable cause. Je balbutiais comme un provincial. Je ne savais si je devais passer devant ou derrière lui. Je crois que, comme M. Parseval devant Napoléon, s'il m'eût demandé mon nom, je n'aurais su que lui répondre. Il fit mieux, il me tendit la main. Pendant tout le déjeuner, nous parlâmes de la France. Il envisagea, les unes après les autres, toutes les questions politiques qui se débattaient à cette époque, depuis la tribune jusqu'au club. Et cela avec cette lucidité de l'homme de génie qui pénètre au fond des choses et des hommes, qui estime à leur valeur les convictions et les intérêts, et qui ne s'illusionne sur rien. Je demeurai convaincu que M. de Chateaubriand regardait dès lors le parti auquel il appartenait comme perdu, croyait tout l'avenir dans le républicanisme social, et demeurait attaché à sa cause plus encore parce qu'il la voyait malheureuse que parce qu'il la croyait bonne. Il en est ainsi de toutes les grandes âmes. Il faut qu'elles se dévouent à quelque chose. Quand ce n'est pas aux femmes, c'est au roi. Quand ce n'est pas au roi, c'est à Dieu. Je ne pus m'empêcher de faire observer à M. de Chateaubriand que ses théories, royalistes par la forme, étaient républicaines par le fond. « Cela vous étonne ?» me dit-il en souriant. Je le lui avouai. « Je le crois. Cela m'étonne bien davantage encore, » continua-t-il. « J'ai marché sans le vouloir comme un rocher que le torrent roule, et maintenant voilà que je me trouve plus près de vous que vous de moi. Avez-vous vu le lion de Lucerne ?»« Pas encore. Eh bien, allons lui faire une visite. C'est le monument le plus important de la ville. Vous savez à quelle occasion il a été érigé ?»«
En mémoire du 10 août. »
« C'est cela. Est-ce une belle chose ?»«
C'est mieux que cela. C'est un beau souvenir. » »«
Il n'y a qu'un malheur, c'est que le sang répandu pour la monarchie ait été acheté à une république, et que la mort de la garde suisse n'a été que le paiement exact d'une lettre de change. » Cela n'en est pas moins remarquable, dans une époque où il y avait tant de gens qui laissaient protester leurs billets. Comme on voit, ici nous différions dans nos idées. C'est le malheur des opinions qui partent de deux principes opposés. Toutes les fois que le besoin les rapproche, elles s'entendent sur les théories, mais elles se séparent sur les faits. Nous arrivâmes en face du monument, situé à quelque distance de la ville, dans le jardin du général Pfeiffer. C'est un rocher taillé à pic, dont le pied est baigné par un bassin circulaire. Une grotte, de 44 pieds de longueur, sur 48 pieds d'élévation, a été creusée dans ce rocher. Et dans cette grotte, un jeune sculpteur de Constance, nommé Ahorn, a, sur un modèle en plâtre de Thorwaldsen, taillé un lion colossal, percé d'une lance, dont le tronçon est resté dans la plaie, et qui expire en couvrant de son corps le bouclier fleur-de-lysé qu'il ne peut plus défendre. Au-dessus de la grotte, on lit ces mots. « Elvetorium fidei ac virtuti ». Et au-dessous de cette inscription, les noms des officiers et des soldats qui périrent le 10 août. Les officiers sont au nombre de 26 et les soldats de 760. Ce monument prenait, au reste, un intérêt plus grand de la nouvelle révolution qui venait de s'accomplir et de la nouvelle fidélité qu'avaient déployée les Suisses. Cependant, chose bizarre, l'invalide qui garde le lion nous parla beaucoup du 10 août, mais ne nous dit pas un mot du 29 juillet. La plus nouvelle des deux catastrophes était celle qu'on avait déjà oubliée, et, c'est tout simple, 1830 n'avait chassé que le roi, 1790 avait chassé la royauté. Je montrai à M. de Chateaubriand les noms de ces hommes qui avaient si bien fait honneur à leur signature, et je lui demandai, si l'on élevait un pareil monument en France, quels seraient les noms de nobles qu'on pourrait inscrire sur la pierre funéraire de la royauté, pour faire pendant à ces noms populaires. «
Pas un, » me répondit-il.
« Comprenez-vous cela ?»« Parfaitement. Les morts ne se font pas tuer. » L'histoire de la Révolution de Juillet était tout entière dans ces mots. La noblesse est le véritable bouclier de la royauté. Tant qu'elle l'a porté au bras, elle a repoussé la guerre étrangère et étouffé la guerre civile. Mais du jour où, dans sa colère, elle l'a imprudemment brisée, elle s'est trouvée sans défense. Louis XI avait tué les grands vassaux, Louis XIII les grands seigneurs et Louis XVI les aristocrates. De sorte que, lorsque Charles X a appelé à son secours les d'Armagnac, les Montmorency et les Lauzuns, sa voix n'a évoqué que des ombres et des fantômes. « Maintenant, me dit M. de Chateaubriand, si vous avez vu tout ce que vous vouliez voir, allons donner à manger à mes poules. » Au fait, vous me rappelez une chose, c'est que lorsque je me suis présenté hier à votre hôtel, le garçon m'a dit que vous étiez sorti pour vous livrer à cette champêtre occupation. Votre projet de retraite irait-il jusqu'à vous faire fermier ? Pourquoi pas ? Un homme dont la vie aurait été comme la mienne, poussée par le caprice, la poésie, les révolutions et l'exil sur les quatre parties du monde, serait bien heureux, ce me semble, non pas de posséder un chalet dans ces montagnes, je n'aime pas les Alpes, mais un herbage en Normandie, ou une métairie en Bretagne. Je crois décidément que c'est la vocation de mes vieux jours. Permettez-moi d'en douter. Vous vous souviendrez de Charles Quint à Saint-Just. Vous n'êtes pas de ces empereurs qui abdiquent ou de ces rois qu'on détrône. Vous êtes de ces princes qui meurent sous un dais et qu'on enterre comme Charlemagne, les pieds sur leur bouclier, l'épée au flanc, la couronne en tête et le sceptre à la main. Prenez garde, il y a longtemps qu'on ne m'a flatté, et je serai capable de m'y laisser reprendre. Allons donner à manger à mes poules. Sur mon honneur, j'aurais voulu tomber à genoux devant cet homme, tant je le trouvais à la fois simple et grand. Nous nous engageâmes sur le pont de la cour, qui conduit à la partie de la ville qui est séparée par un bras du lac. C'est le pont couvert le plus long de la Suisse, après celui de Rapperswil. Il a 1380 pieds et est orné de 238 sujets tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous nous arrêtâmes aux deux tiers à peu près de son étendue, à quelque distance d'un endroit couvert de roseaux. Monsieur de Chateaubriand tira de sa poche un morceau de pain qu'il y avait mis après le déjeuner et commença de l'émietter dans le lac. Aussitôt, une douzaine de poules d'eau sortirent de l'espèce d'île que formaient les roseaux et vinrent en hâte se disputer le repas que leur préparait, à cette heure, la main qui avait écrit le génie du christianisme, les martyrs et le dernier des abancérages. Je regardais longtemps, sans rien dire, le singulier spectacle de cet homme penché sur le pont, les lèvres contractées par un sourire, mais les yeux tristes et graves. Peu à peu, son occupation devint tout à fait machinale. Sa figure prit une expression de mélancolie profonde. Ses pensées passèrent sur son large front comme des nuages au ciel. Il y avait parmi elles des souvenirs de patrie, de famille, d'amitié tendre, plus sombres que les autres. Je devinais que ce moment était celui qu'il s'était réservé pour penser à la France. Je respectais cette méditation tout le temps qu'elle dura. À la fin, il fit un mouvement et poussa un soupir. Je m'approchai de lui. Il se souvint que j'étais là et me tendit la main. « Mais si vous regrettez tant Paris, lui dis-je, pourquoi n'y pas revenir ? Rien ne vous en exile et tout vous y rappelle. » « Que voulez-vous que j'y fasse ? Me dit-il. J'étais à Cotteret lorsqu'arriva la Révolution de Juillet. Je revins à Paris. Je vis un trône dans le sang et l'autre dans la boue. Des avocats faisant une charte, un roi donnant des poignées de main à des chiffonniers. C'était triste à en mourir, surtout quand on est plein, comme moi, des grandes traditions de la monarchie. Je m'en allais. D'après quelques mots qui vous sont échappés ce matin, j'avais cru que vous reconnaissiez la souveraineté populaire. Oui, sans doute, il est bon que, de temps en temps, la royauté se retrempe à sa source, qui est l'élection. mais cette fois on a sauté une branche de l'arbre, un anneau de la chaîne. C'était Henri V qu'il fallait élire, et non Louis-Philippe.
Vous faites peut-être un triste souhait pour ce pauvre enfant, répondis-je. Les rois du nom de Henri sont malheureux en France. Henri Ier a été empoisonné, Henri II tué dans un tournoi, Henri III et Henri IV ont été assassinés.
Eh bien, mieux vaut à tout prendre mourir du poignard que de l'exil. C'est plutôt fait et on souffre moins.
Mais vous, ne reviendrez-vous pas en France? Voyons.
Si la duchesse de Berry, après avoir fait la folie de venir dans la Vendée, fait la sottise de s'y laisser prendre, je reviendrai à Paris pour la défendre devant ses juges, puisque mes conseils n'auront pu l'empêcher d'y paraître.
Sinon?
Sinon, continua M. de Chateaubriand, en émiettant un second morceau de pain, je continuerai à donner à manger à mes poules. 2 heures après cette conversation, je m'éloignai de Lucerne dans un bateau conduit par 2 rameurs. J'avais vu de la ville ce que je voulais en voir, et de plus, j'en emportais un souvenir que je ne comptais pas y trouver, celui d'une entrevue avec M. de Chateaubriand. J'étais resté tout un jour avec le géant littéraire de notre époque, avec l'homme dont le nom retentit aussi haut que ceux de Goethe et de Walter Scott. Je l'avais mesuré comme ces montagnes des Alpes qui s'élevaient blanchissantes sous mes yeux. J'étais monté sur son sommet. J'étais descendu au fond de ses abîmes. J'avais fait le tour de sa base de granit, et je l'avais trouvé plus grand encore de près que de loin, dans la réalité que dans l'imagination, dans la parole que dans les œuvres. Depuis ce temps, l'impression que j'avais reçue n'a fait que s'accroître, et jamais je n'ai essayé de revoir M. de Chateaubriand, de peur de ne pas le retrouver tel que je l'avais vu, et que ce changement ne portât atteinte à la religion que je lui ai vouée. Quant à lui, il est probable qu'il a oublié non seulement les détails de ma visite, mais encore la visite elle-même. Et c'est tout simple, j'étais le pèlerin, et il était le dieu.